Je vous invite à lire avec moi dans le livre des Proverbes, au chapitre 13 et au verset 12. Proverbes 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Je le relis. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Je vais demander au Seigneur encore sa grâce sur ces moments. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là réunis devant toi. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous avons élevé nos voix ensemble, individuellement. Et nous voulons toujours, Seigneur, continuer à avoir cet état d'esprit, que tu sois au centre de nos pensées et au centre de ces moments. Ce lieu n'est pas un lieu de rencontre, comme je l'ai dit ce matin, entre les hommes, mais un lieu de rencontre avec Dieu. Et c'est toi que nous sommes venus chercher et trouver encore cet après-midi. Merci de nous accueillir dans ta présence. Merci de nous faire l'honneur d'être là, Seigneur. Tu es celui qui est invisible physiquement, mais qui fait tant de bien spirituellement. D'ailleurs, tu es le seul qui peut faire autant de bien. Que ton nom soit béni encore d'agir par ta parole et par ton esprit qui nous l'expliquera. Amen. 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 J'ai pris cette première lecture pour montrer un petit peu comment l'espoir est important dans notre vie. Si je devais donner un titre, c'est « L'espoir et l'espérance ». Voilà. Comme ça, à la sonorisation, ils ont le titre « L'espoir et l'espérance ». Le monde a besoin d'espoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez besoin d'espoir ou d'espérance dans votre vie? Est-ce que vous êtes déjà mis à espérer d'avoir des cadeaux de Noël? Est-ce que c'est important ça? Qu'on n'en ait pas. En vrai, est-ce que c'est grave? Non. Par contre, vous voyez bien les petits-enfants, eux, une fois qu'ils savent comment ça fonctionne, qu'à Noël, il y a des cadeaux, alors ils espèrent, etc. Et c'est très très dur de leur faire comprendre le vrai sens de Noël. La venue du Sauveur sur la terre. Parce qu'en vrai, on l'a déjà eu le cadeau. C'était Jésus. C'était Jésus. Donc il y a des choses pour lesquelles on a de l'espoir, on a de l'espérance, c'est un peu secondaire, quoi. J'ai pris un exemple assez bénin. Mais des fois, il y a l'espérance, un espoir que ma situation va s'arranger, un espoir que les choses vont aller mieux, un espoir que je vais réussir dans mes examens, un espoir de trouver un travail, un espoir de trouver un conjoint, un espoir d'avoir des enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des choses bien, bien plus importantes. Et dans notre monde, on voit que beaucoup de personnes cherchent une espérance, mettent leur espoir, leur espérance dans tout ce qu'ils trouvent parce qu'ils sont en manque d'espoir, en manque d'espérance. Vous savez d'où viennent les jeux d'argent? À la base, c'était des petites choses qui se sont arrangées comme ça, mais comment ça s'est fait aussi officiellement? Pourquoi ça a été approuvé dans nos sociétés alors qu'on connaît aussi les dégâts que ça peut faire? Mais parce que des fameux psychologues ont décidé et ont trouvé que le monde avait besoin d'espoir. Et le fait d'espérer de gagner de l'argent, c'était un moyen aussi de distraire et de compenser ce manque qu'il y avait dans les cœurs. C'est étonnant ça. Derrière, il y a un besoin de business, bien sûr, il y en a certains qui veulent gagner de l'argent, mais ça a été autorisé, c'est de plus en plus autorisé, parce que d'après certaines autorités, ils reconnaissent qu'il y a un besoin, il y a un besoin dans le cœur de l'homme, il y a un vide, il y a quelque chose qui manque, et les gens vont vers des choses, et entre autres, les jeux d'argent, c'est fait pour ça. Donner de l'espoir aux gens parce qu'ils en manquent. J'ai pris quelques petits indices, quelques petites choses, pour nous montrer comme quoi le monde a besoin d'espoir et manque d'espoir. En l'an 2000, 815 000 personnes se sont suicidées, c'est-à-dire qu'ils ont réussi. 815 000 personnes juste dans cette année-là. En 2009, comme quoi même on nous le rabâche et tout, et c'est vrai, en 2009, il y avait 245 catastrophes naturelles. En 2010, un an plus tard, 950 catastrophes naturelles. Et depuis le 1er janvier, on est bientôt à 500 catastrophes naturelles. On a la moitié de l'année. Donc on est prêt même à battre encore le record. Et c'est vrai que même pour notre Terre, il n'y a plus d'espoir. c'est pas nouveau. De plus en plus, on voit des films sortir sur la nature et le besoin de préserver la nature, le fait d'être intelligent, de respecter ce qui nous entoure. Alors les gens ne le comprennent pas et disent il y a mère nature qui est là, on l'a détruit, etc. Mais quand on sait en plus que c'est la création de Dieu, on comprend qu'il y a besoin d'un respect. 32 millions de réfugiés climatiques par an. Dans le monde aussi, il y a une autre forme de compensation quant au manque de l'espoir, c'est la drogue. Et là encore, j'ai cherché. Vous savez combien il faudrait pour compenser le manque de nourriture dans le monde pour les enfants? Il y a de la famine. Vous étiez au courant que dans certains pays, il y a la famine. Il y a des gens qui meurent de faim, des enfants qui meurent de faim. Et pour compenser toute la famine sur la terre, pour repartir avec des plantations, des choses, le plan de sauvetage coûterait 24 milliards et quelques. 24 milliards quelque chose. Vous savez combien et de combien est le chiffre d'affaires de la drogue dans le monde? Il nous faudrait 24 milliards, il est de 243 milliards d'euros. 243 milliards, ça veut dire 10 fois supérieur à ce qu'il faudrait pour sauver tous les enfants de la famine. Dieu a fait la terre suffisamment riche pour que chacun ait de quoi manger. Et à cause de l'égoïsme et du gaspillage, on passe à côté. Près de 16 millions de personnes chaque année s'injectent de la drogue dans leur corps. 16 millions de personnes qui sont dépendantes ou qui essaient la drogue dans une année. Vous savez combien les célibataires, puisqu'il y a une autre forme de désespoir, les célibataires dépensent pour trouver un conjoint ou une conjointe rien que sur Internet. Il y a une dépense de 4,66 milliards d'euros juste sur Internet pour trouver un conjoint. Et je ne veux pas juger ceux qui le font. Je ne veux pas juger ceux qui le feraient. Parce que je peux comprendre qu'il y a une souffrance, mais c'est bien la preuve qu'il y a besoin d'espoir, il y a besoin d'un nouvel espoir. Et la moindre solution, on va sauter dessus et on va y aller. C'était en 2007 et je suis sûr que ça a progressé. Je parlais jeudi soir de la voyance et l'astrologie et je parlais de ceci. 75% des gens qui consultent des voyants ou astrologues le font pour une affaire de cœur, souffrance sentimentale. Il y a un besoin d'espoir, il y a un besoin de bonnes nouvelles. Il y a un besoin d'une annonce, une bonne annonce, quelque chose qui vienne réconforter mon cœur. Mais quand il y a un espoir qui est différé, quand je suis déçu quant à quelque chose que j'espérais, alors j'en deviens malade. J'ai mon cœur qui devient malade et je cours après un autre espoir. Qu'est-ce qui pourra me donner de l'espoir? La drogue? Une relation? L'astrologie? La voyance? Qu'est-ce que je vais chercher? Les gens courent après un espoir, ils ont besoin d'espoir et je suis le premier à en faire partie. J'ai besoin d'espoir dans ma vie. Et pourtant, toutes ces catastrophes n'amènent pas les gens vers Dieu plus que ça. Pourquoi? On pourrait se dire, oh, parce qu'ils n'en veulent pas. Je crois que c'est très facile de dire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la raison que chacun d'entre nous, on ne prend pas à cœur ce cri de désespoir que le monde pousse? Est-ce que chacun d'entre nous, nous qui avons connu Jésus-Christ, nous ne pourrions pas nous aussi dire, mais moi qui ai reçu cet espoir de Dieu, moi qui ai une espérance bénie en Jésus, moi qui ai reçu cette bonne nouvelle, je peux la donner, je peux la communiquer, je peux la partager. Vous comprenez ce que je veux dire? On a tous besoin d'espoir. En Jésus-Christ, on trouve de l'espoir et de l'espérance. Et ce qu'on a reçu, on peut le partager. Je m'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur parce que c'est le dernier culte de cette année scolaire, après quoi on rentrera dans l'été, et l'après-midi ce sera une réunion d'évangélisation. Je tenais vraiment à parler à chacun d'entre nous. Mais même en tant qu'enfant de Dieu, je crois que des fois, on peut manquer d'espoir. La Bible nous dit que Dieu a fait sa part pour nous donner de l'espoir. Il nous a donné, bien sûr, les Saintes Écritures, il nous a donné tout ce qu'il faut pour être rassurés. Je vous lirai quelques textes que je citerai dans Psaume 65, versets 6 et 7, par exemple. « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il affermit même les montagnes par sa force, il les ceint de puissance. » Amen. Même pour la nature, Dieu est un espoir. Il continue, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas, beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas à plus forte raison, gens de peu de foi. » C'était dans Matthieu 6, 25 à 30. Dieu nous dit, Jésus exhortait déjà sur la terre en disant, mais faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. De son côté, c'est réglé. Vous avez vu, ne serait-ce que dans la nature, comment il s'occupe de la fleur qui a des lys dans son jardin. Si Madame Delabre était là, elle dirait, moi j'ai des lys. Il y en a plusieurs. Hein. Vous avez vu comment c'est beau, comment c'est bien fait. Parce que Jésus, il a pris un bon exemple, je trouve. Cette fleur qui sort, d'abord une tige verte avec quelque chose, puis d'un coup quelque chose de très coloré qui vient, qui est là, qui s'épanouit avec tout le cœur qui est comme une trompette quelquefois, etc. C'est beau les lys. Hein, il y en a devant, c'est vrai, j'avais oublié. Elles sont oranges, vous voyez ? Je ne sais pas si c'est des lys. Ce n'est pas des lys. Mais c'est un peu pareil, vous voyez ? Un peu comme une trompette, comme ça, le cœur. Mais vous verrez, ça, ce n'est pas des lys. Mais on a l'exemple des fleurs devant nous, ça, c'est vrai. Vous avez vu la multitude de couleurs, la différence ? Dieu aurait pu faire tout en noir et blanc. J'aime bien penser à ça, moi, des fois. Dieu aurait pu faire les choses en noir et blanc. Et pourtant, il a donné les couleurs, etc. Quand on choisit les vêtements, tiens, les sœurs, elles sont en harmonie. Cet après-midi, tout en rose, avec du blanc. Vous voyez, il y a des couleurs et c'est bien. Ça donne une petite touche, une petite note de différence. Si on était tous les mêmes, habillés en blanc ou en noir ou en gris, et qu'on venait tous, vous savez, comme à l'école avant où il y avait les tuniques. Qui a connu ça, les tuniques ? Moi, j'ai pas connu. Il y en a, ils ont connu ça, hein, les tuniques. On allait tous en rang, tous pareils, et puis habillés pareils, etc. Non ? Le Seigneur, il n'a pas dit on va aller tous en rang, tous la même tunique, bien que ça apportait quand même quelque chose. Hein. Mais en tout cas, dans le monde, Dieu nous a fait tous différents. Il aurait pu tous nous faire comme Michael. On aurait été beau, mais il a choisi de faire un peu différent. Vous voyez, voilà. Le Seigneur, il a fait les choses belles. Et s'il prend soin de la nature, s'il a fait tout ça merveilleusement, s'il a donné un gros manteau à l'ours polaire, pour qu'il puisse vivre dans le froid pas possible, eh bien le Seigneur, il saura s'occuper de nous. Quel espoir, quelle espérance. Il suffit de croire, bien sûr. Ça, c'est le côté de Dieu. Mais il y a aussi la part de l'homme. La part de l'homme. Comment obtenir une espérance, cette paix, cette grâce dont on a besoin tous, cette force qui nous tient debout. Quelqu'un dira, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein ? Et c'est important de comprendre qu'on a tous besoin d'espoir, mais c'est bien aussi de comprendre où aller chercher cet espoir. Il ne faut pas se tromper, beaucoup de personnes se trompent, et il y a quelques cas de mauvais chemin pour trouver l'espoir. Par exemple, dans Psaume 62, verset 10, il est dit « Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. » C'est quoi la rapine ? C'est le voleur, le vol, hein ? Ne mettez pas votre espoir dans la violence ou dans le vol. Pourquoi ? Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Juste après, il est dit que c'est un peu comme dit Job, hein, c'est comme une toile d'araignée, hein, qui est là, qui nous emprisonne. Quand on met notre espoir dans les richesses, etc. Ça, c'est un mauvais chemin. C'est pas parce qu'on a un compte en banque bien garni qu'on va s'en sortir. C'est pas parce qu'on a le meilleur salaire qu'on va s'en sortir et que tout va aller bien. C'est pas là-dedans qu'il faut mettre son espoir. C'est pas parce que je suis quelqu'un de violent et qu'on a peur de moi que je peux mettre mon espoir, que je peux avoir de l'espoir et que je peux être tranquille. Souvent, les gens les plus violents sont les gens les moins tranquilles. Parce qu'ils ont toujours peur que ça leur retombe dessus. Je connaissais quelqu'un à l'école qui était toujours violent, parce qu'on lui avait fait du mal. Et il avait dit « je me laisserai plus faire », il était toujours violent, il tapait. Dès qu'on lui disait une parole de travers, il tapait. Et violent. Et il y en a, ils disaient, oh, tu dois être tranquille, toi, on t'embête pas. Et quand on parle un petit peu avec, de cœur à cœur, Il dit, j'ai toujours peur que ceux que j'ai tapés, ils viennent derrière et ils se vengent. Une peur qui est là. Une peur. Ne mettons pas notre espérance dans la violence, ni dans le vol. Certains disent, le monde ne m'a pas donné, ou ma destinée n'a pas été bonne, je n'ai pas eu ce que je méritais, alors je vais le voler chez les autres. La jalousie, etc. Toutes ces choses, ça nous retombe dessus. D'ailleurs, le voleur, il est dit qu'il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Job 8, versets 13 à 15. « Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. » L'impie, c'est celui qui vit sans Dieu, sans conscience de Dieu. « Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne, et elle ne résiste pas. » Celui qui oublie Dieu, c'est comme celui qui bâtit sa maison sur le sable. Jésus va donner cette image, hein. Celui qui oublie Dieu et qui oublie la parole de Jésus, la parole, la Bible, qui néglige, eh bien celui-là c'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison, il s'appuie sur sa maison, il se fait une belle forteresse, hein, mais au temps de la tempête tout s'écroule et lui il tombe avec, puisqu'il s'appuie dessus, il s'y cramponne, mais elle ne résiste pas. Ne nous appuyons pas sur nos efforts, ne nous appuyons pas sur nos mérites, ne nous appuyons pas sur nos richesses. Appuyons-nous plutôt sur quelqu'un d'autre, bien sûr, psaume 27, verset 14, on le lit. Psaume, chapitre 27, verset 14. Espère en qui alors? Si ce n'est pas en la maison, si ce n'est pas en la voiture, vous avez déjà été déçu par votre voiture peut-être. Michael a été déçu par sa voiture. Il sait de quoi je parle puisque... Hein? Ah, ma belle voiture, elle m'abandonne jamais. Puis un jour, et voilà. Psaume 27, 14, qu'est-ce qu'il dit? Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il y a comme un cri qui est là et qui dit, mais espère en l'Éternel. Et il parle à son âme. Il dit, mais espère en l'Éternel. Oh oui, appuie-toi sur lui. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Oui, ce n'est pas en n'importe qui, mais c'est en l'Éternel et en son Fils Jésus-Christ. Je vous lis psaume 146, versets 5 à 10. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Regardez. Il donne du pain aux affamés. Il délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Loué l'Éternel. Amen. Vous avez vu un peu tout ce qu'il fait l'Éternel ? Il prend soin du malheureux. Dans Jacques, il est dit, la religion pure et sans tache, c'est deux. Visiter dans leurs afflictions les veuves et les orphelins. Et de se détourner ou de se préserver des souillures du monde. Et Jacques n'a pas inventé ça. D'un coup, tiens, on va penser aux veuves et aux orphelins. Il a dit ça parce qu'il a sûrement lu les psaumes. Parce qu'il a sûrement entendu aussi la loi de l'Éternel qui a de multiples reprises dit, tu feras droit ou tu feras justice à la veuve et à l'orphelin. Quand tu ramasseras, tu sais, les olives, quand tu iras dans ton champ, que tu secoueras l'olivier et que tu ramasseras les olives, tout ce qui restera resté sur l'arbre, ça sera pour la veuve et pour l'orphelin. Quand tu iras dans les vignes et que tu récolteras ton raisin, ce qui reste, c'est pareil, tu laisseras 10% pour l'étranger, la veuve et l'orphelin. Dans la loi de l'Éternel, Dieu avait pensé à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger. Et nous ? Sommes-nous comme Dieu ? Jésus vit-il en nous au point de nous avoir fait comprendre ces choses ? De prendre soin de la veuve ? De prendre soin de l'orphelin ? De ne pas être raciste quant à l'étranger ? C'est ça ? De ne pas mépriser l'étranger lorsqu'il vient ? Mais de prendre soin de chacun ? Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Peut-être quelqu'un parmi nous vient d'un autre pays. Et il s'est dit en France, je vais y aller, je vais avoir tout ce qu'il me faut. Et quand il est arrivé, il a vu que c'était pas aussi facile que ça, qu'il y avait des lois, qu'il y avait des règles, qu'il y avait toutes sortes de problèmes quant au papier. Il a vu tout cela. Si je dis ça, c'est pas anodin, c'est pas au hasard. C'est parce que depuis que je suis arrivé, j'ai au moins vu 50 personnes qui sont dans ce cas-là, même dans l'assemblée, des personnes qui aiment le Seigneur Jésus, mais qui sont gênées parce qu'à cause du manque de papier, ils ne peuvent pas travailler, etc., etc. Quand on sort dans la rue avec Monsieur Galifot, voir ces filles qui se prostituent, et ça serait facile de dire « Oh, elles sont sales, oh !» et de mettre tout un jugement, etc. Mais quand on regarde le parcours, quand on regarde les mensonges qu'on leur a fait miroiter, etc., pour les attirer dans le filet, quand elles sont arrivées, pas de papier, rien, etc., pas le droit de travailler, pourtant, un besoin de manger, etc., etc. La peur, parce qu'on leur dit « Si un policier vous trouve sans papier, il vous renvoie chez vous, ou il vous met en prison. » Un jour, on sortait, et alors qu'on parlait dans la rue, etc., on voyait une de ces filles qui venait du Nigeria, et alors qu'on parlait avec elle, on voyait qu'elle avait mal au ventre. On lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Puis d'un coup, on la voit vaciller, presque tomber. « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Et on la ressaisit, on l'aide, on l'assoit. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Et notre amie vient et dit « Voilà, ça fait plusieurs jours aller comme ça. » En fait, elle avait une crise d'appendicite. Vous savez que si on ne le soigne pas, on peut faire une infection, péritonite, etc. Et cette jeune fille était là devant nous et on lui a dit « Mais il faut absolument que tu ailles voir le médecin, etc. » Et avant, on prie pour elle, bien sûr, mais au bout d'un moment, on dit « Bon, mais on ne peut pas te laisser seule. Il faut que tu ailles voir le médecin. » « Non. Mais pourquoi ? On va appeler l'ambulance, on va appeler l'hôpital et tout. » « Non, je ne veux pas. » Refus total. « Mais pourquoi ? Parce que je vais aller en prison. Parce que tout ça, etc. » Et on avait beau dire « Mais non, ne t'inquiète pas, etc. »« Parce que mais non, je te dis tout ça, etc. » Et pour vous dire que Dieu a pitié de l'étranger, c'est que nous, au bout d'un moment, la voyant ne pas vouloir, on a reprié avec elle. Et puis on est parti. Et quand on est revenu, malheureusement, elle était encore dans la rue, ça c'est un autre problème. Mais elle avait été guérie sans opération, sans rien. Elle était devant nous. Et le Seigneur a eu pitié d'elle. Et plus tard, elle s'est fait contrôler par un médecin. Elle a eu vraiment une infection, etc. Et Dieu l'a gardée. Dieu l'a gardée. Mais pour vous dire que c'est facile de juger, c'est facile de pointer du doigt. Moi-même, j'ai pas compris des choses, certaines choses. Mais quand je lis la parole de Dieu, je me dis « Seigneur, aide-moi à avoir de l'amour même pour l'étranger. » Un amour qui fait que je ne ferai pas de différence. Au contraire, j'aurai de compassion. De lui, si je peux lui faire un bien, eh bien, je lui ferai. Et la veuve, pareil. Et l'orphelin, pareil. Que le nom du Seigneur soit béni, il fait grâce. Qu'est-ce qu'il fait ? Il aime les justes. Il protège les étrangers, il soutient l'orphelin, la veuve, etc. Hein ? Qu'est-ce qu'il est dit juste avant ? Il donne à manger, il donne du pain aux affamés. Ailleurs, il dit, le juste ne mendiera jamais son pain. Merci Seigneur. Et à un autre endroit, dans un autre texte, il dit même, je donne un manteau aux pauvres. Je donne un manteau aux pauvres. Et j'ai un ami, pasteur, qui s'occupe à Paris des personnes de l'Est, vous savez, qui sont dans les camps, etc. Les Roms, comme on dit, les Romains. Et il va les voir, etc. Plusieurs fois, il leur a posé la question, mais pourquoi vous avez des chiens ? Pourquoi vous avez des chiens ? Parce que les gens ont plus pitié du chien que de nous. Et quand on fait la manche, s'il y a un chien, il donne. Mais s'il n'y a pas de chien, il ne donne pas. Vous imaginez ? Et cet homme, ce frère, a eu tellement à cœur ces personnes qu'il a commencé à développer quelque chose pour les aider. C'est un pasteur, il a ça à cœur vraiment, etc. En dehors des réunions, en dehors des préparations, il se donne vraiment dans ce travail, il a développé ça, puis il l'a confié à quelqu'un d'autre. Mais quand il développait ça, il a eu cette parole un jour, mais Dieu donne un manteau aux pauvres. Il a commencé à dire, Seigneur, sur ta parole, je crois que ces personnes, pour l'hiver, auront un manteau. Et il partage ça à l'église, il dit, voilà, vous savez, Dieu a mis ça, et je sais que Dieu est fidèle, et Dieu va nous aider. Et un frère dans l'assemblée était un grand entrepreneur, il faisait des échanges de marchandises, etc. Et un frère venait d'avoir un camion qui devait être déchargé, rempli de manteaux publicitaires. Vous savez, on met la publicité d'une boîte, d'une entreprise. Et il dit, voilà, ces manteaux, on peut pas les livrer, est-ce que vous les voulez ? Et ils ont eu des centaines de manteaux, ils ont pu les distribuer, les donner. Comme quoi Dieu pourvoit, et Dieu est fidèle à sa parole. Oui. Du côté de Dieu, tout est bon et il suffit d'aller chercher au bon endroit, de mettre son espoir en la bonne personne, sur la bonne parole. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Oui, Je crois qu'il y a deux choses dans le mot espoir. Je voudrais pas être trop long, je vais bientôt terminer, mais le mot espoir, dans la définition, il y a deux aspects. Le premier, l'espoir, c'est un sentiment. Sentiment qui porte à espérer. C'est ça la définition. Sentiment qui porte à espérer. C'est-à-dire que les circonstances me donnent bon espoir. J'ai bon espoir qu'elle va réussir parce qu'elle a eu des bonnes notes, vous savez? Ça, c'est le sentiment, c'est quelque chose, une émotion par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je rencontre. Il y a des choses sur lesquelles m'appuyer, humainement parlant. Mais il y a une autre forme d'espoir. Une espoir qui parle plus d'attitude. Avoir une attitude d'espoir. Et la définition, la deuxième partie de la définition, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance quelque chose. C'est plus un espoir passif. Je pense, mais bon, je sais pas trop. Apparemment, c'est j'ai confiance, j'attends avec confiance, même si je ne vois pas, même s'il n'y a rien qui me montre que ça va arriver, j'attends avec confiance, ou alors je fais avec confiance. Et dans l'exemple qu'il y avait, c'est « je suis venu dans l'espoir de te rencontrer ». J'ai pas attendu de voir quelque chose pour être sûr s'il y avait la personne, mais je fais quelque chose parce que j'ai la conviction qu'en me déplacement, sûrement que je verrai la personne. Il y a vraiment une attitude de confiance, une démarche, une action de ma part. Et c'est exactement cette attitude, cet espoir-là qu'a eu Abraham. Il est dit dans Romains 4, 18, « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » C'est dans Romains 4, 18. « Espérant contre toute espérance. » Et je ne sais pas si ça vous l'avez fait avant moi, ou avant cet après-midi, mais quelle expression bizarre, espérant contre toute espérance. Vous y avez déjà pensé? Un espoir contre l'espoir, il y a un problème. Et j'y ai réfléchi, et j'ai dit, mais il faut que tu regardes. C'était ce matin, j'ai dit, il faut que tu regardes. Et je regardais, et j'ai remarqué que ce n'est pas contre, c'est-à-dire faire la guerre à quelqu'un ou pas être d'accord. C'est espoir à côté d'un autre espoir, contre. La définition du mot, c'est espoir contre. Espoir contre espoir. Il y a deux espoirs, je les mets, l'un contre l'autre. Et il y a un autre mot, c'est le mot para qui est là aussi, qui veut dire espoir sur l'espoir. C'est une question de position, et pas de position géographique, c'est pas une question de conflit. On n'est pas contre l'espoir, mais c'est espérant à côté de l'espoir, ayant une espérance à côté d'une autre espérance, et on continue à espérer, et je continue. Vous voyez le principe? C'est plus une question de persévérance. Espérant contre toute espérance, peut-être vous l'aviez compris comme ça, et vous n'aviez pas fait cas de l'expression, mais j'ai voulu fouiller quand même. Et c'est espoir sur espoir. Je continue, malgré tout, même s'il y a des fautes, même s'il y a des défauts, même s'il n'y a rien qui bouge, même s'il y a des erreurs même, je continue à espérer. Et je vous lis maintenant l'histoire d'Abraham par rapport à la promesse d'une postérité. Genèse 13, verset 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Amen. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Abraham n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Sa femme était déjà stérile. Et Dieu lui dit, je vais te faire une confidence, je vais te donner une promesse, je vais te dire quelque chose. Voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai décidé. Tu vois, ta descendance, elle va couvrir tout ce pays. Seigneur, ma femme, elle est stérile. Seigneur. On commence à avoir de l'âge, etc. Toutes sortes de raisons, peut-être qu'il vient de voir. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ne s'arrête pas. Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, aux côtés d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham, il ne désespère pas. Au contraire, j'ai cette promesse. Il commence déjà à habiter, à visiter le pays. On continue. Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Vous avez déjà essayé, vous ? Compter les étoiles ? Quand j'ai entendu prêcher ça petit, j'ai compté après, j'ai pas réussi. Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Vous voyez, Abraham, il attendait, il disait, « Je vais sûrement avoir une descendance, j'ai une première promesse, j'ai eu quelque chose, ma postérité va couvrir le pays. » Et puis au fil du temps, il s'était dit, « Bon, ben, peut-être que c'est celui qui est serviteur, servante, ouvrier, j'en sais rien, dans ma maison qui va être mon descendant, peut-être c'est de ça que Dieu parlait, mais bon, il espère quand même, et voilà, Dieu reparle. » Et il représente le sujet, il dit, tant qu'à faire, Dieu me parle, bien, on s'expose, on dialogue. Hein? Et il commence à discuter avec Dieu, et lui dire, mais voilà, j'ai pas de descendance, j'ai rien, etc., et tu m'as dit ça, etc. Sors dehors, va compter les étoiles. 1, 2, 3, oula, il y en a trop. Tu vois, t'arrives pas. Ben, de la même manière, on n'arrivera pas à compter ta descendance. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit quand même, ça fait déjà des années que j'attends, tu crois que c'est sûr ? Non, c'est pas ça qu'il fait. Il croit. Et ça continue. Genèse 16, versets 1 à 5. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi, c'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » On continue donc. Abraham, il croit. C'est de mes entrailles. Bon, ça sera mon fils, c'est sûr. Et voilà que la femme, elle voit bien qu'elle n'arrive pas à être enceinte. Elle dit, bon, peut-être que mon mari, il n'a pas tout compris. Ou Dieu n'a pas tout dit. Il faut qu'on aménage la chose, quoi. Et il lui dit, ben voilà. Elle lui dit, j'ai ma servante, va vers elle. Elle lui donne, elle tombe enceinte. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ? Parce que nous, on connaît la suite. Hein ? Est-ce que c'était la promesse de Dieu, Ismaël, ce petit enfant ? Non. Ça veut dire qu'Abraham, il a commis une erreur. Sarai a commis une erreur. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a eu même une erreur. Peut-être qu'Abraham, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, écoute, est-ce que c'est la promesse ? Ismaël, peut-être que dans sa tête, les années ont passé, il s'est posé des questions. Est-ce que vraiment c'est ça ? Toutes les disputes que ça me crée, tout, etc. J'en sais rien. Peut-être il a dit, tiens, est-ce que j'ai eu raison ou quoi ? On va voir. De toute façon, plus de nouvelles de l'Éternel. Le temps passe. Après tout, c'était peut-être ça. Et voilà que Dieu reparle encore à Abraham. Genèse 17, versets 15 à 19. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba face contre terre, il rit et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un fils d'un homme âgé de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle ? » Puis Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Mais Dieu dit, « Certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. » Et juste après, il va dire que aussi, il va s'occuper, il va bénir Ismaël et sa descendance. Mais c'était pas Ismaël, le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'était Isaac. Et d'un coup, peut-être que Abraham s'est dit, oh, j'avais raison, je me suis planté, je me suis trompé, j'ai commis une erreur. J'ai voulu faire par mes propres forces. Peut-être que dans sa tête, il s'est dit, mais est-ce que je mérite ? Est-ce que je mérite d'avoir cette promesse? Est-ce que je mérite, eh bien, que Dieu fasse de moi une descendance, qu'il me donne une descendance, que je puisse avoir une descendance nombreuse, etc.? Peut-être que son espoir aurait pu être en tout cas découragé, même si Dieu l'a dit, est-ce que je vais quand même l'avoir parce que j'ai commis une erreur, etc. Toutes sortes de pensées qui auraient pu passer. Tu sais, ça fait déjà plus de 10 ans, 15 ans, j'ai toujours rien, ma femme n'est toujours pas enceinte, comment ça va se passer, etc. Abraham va croire. Chapitre 21 et verset 1. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Amen. On s'arrête là. Vous voyez ? Plusieurs étapes, plusieurs interventions de Dieu, plusieurs erreurs. Sarah qui rit, Abraham qui rit, à des moments où il y a des défaillances, etc. Mais tout le temps, Abraham a remis son espoir, a recommencé à espérer en l'Éternel. Et qu'importe les erreurs, il n'a pas douté parce qu'il ne méritait pas. Il savait, il a bien compris que de toute façon il ne méritait rien, mais que Dieu était fidèle à sa promesse. Il a compté sur la parole de Dieu parce que Dieu lui avait parlé. Il a mis tout son espoir dans les promesses de Dieu. Et peut-être qu'il a mal réagi à certains moments. Peut-être qu'il a fait des erreurs. Peut-être qu'il y a eu des moments où il s'est posé des questions comme on se pose tous des questions. Mais jusqu'au bout, il a persévéré, espérant sur espérance, et pas contre dans le sens contre. Mais à chaque fois, il a remis son espoir. S'il le perdait, une parole de Dieu, hop, et il recommençait, et il a continué, persévéré, etc. Et il a eu la promesse qui lui était réservée. Dites-moi, est-ce qu'on peut compter les Juifs qu'il y a sur terre et qu'il y a eu depuis cette promesse? Il y a eu les Hébreux, et aujourd'hui il y a les Juifs. Est-ce que le peuple juif, on peut le compter sur toute la terre? On ne peut pas le compter. Vous trouvez des juifs partout. Les plus grandes banques d'Amérique, c'est des juifs qui les tiennent, etc. Dans tout le monde entier, il y a des juifs. Les plus grands scientifiques ont été des juifs. Les choses, etc. Ils sont partout, il y a partout des descendants d'Abraham dans le sang. Et même à un moment, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale pour persécuter, pour faire une extinction, pour qu'on ne puisse plus trouver un seul juif sur terre. Et c'est comme ça que Dieu accomplit sa promesse que son peuple rentrerait à Israël, le début, et ça continue encore aujourd'hui. Et le Seigneur a des promesses pour le futur, quant à Israël, quant aux Juifs. Et le Seigneur veut bénir ce peuple-là. Mais il dit aussi qu'il y a une descendance spirituelle d'Abraham. Il y a des gens qui vont faire comme lui, c'est-à-dire espérer contre l'espérance. Espérer contre toute espérance, espérance sur espérance, espoir sur l'Éternel et sur sa parole. Abraham va avoir une descendance aussi spirituelle. Ceux qui croiront en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est eux, les fils et les filles d'Abraham aussi. Ils ont été adoptés pour être aussi de la famille d'Abraham, de ceux qui sont bénis en Jésus-Christ, de ceux qui ont tenu bon. Et quand on regarde dans Hébreux chapitre 11, les héros de la foi, il est parlé aussi d'Abraham. Et il n'est pas rappelé ses défauts. Qu'est-ce que ça nous rassure, hein ? Dieu ne compte pas sur nos mérites, Dieu y compte sur notre foi dans sa parole. Il parle de la foi d'Abel, de la foi d'Enoch, de la foi de Noé. Et puis verset 8, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger. Il n'était pas encore à lui le pays. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Et cette phrase, elle est incroyable. C'est quoi la foi ? C'est tenir pour fidèle celui qui fait une promesse, Dieu. Celui qui nous a fait des promesses, le Seigneur Jésus. Et celui qui prend la parole de Dieu, qui prend les évangiles, qui prend les paroles de Jésus à la lettre, qui les prend pour les appliquer, alors il plaît à Dieu. Il est fils, elle est fille d'Abraham. Et elle devient héritière de la promesse, cette personne-là. Que son nom soit béni. Espérant, ce sur espérance, espérance sur espérance, espoir sur espoir, mais dans la bonne personne, dans l'Éternel. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Peut-être quelqu'un est malade cet après-midi, parce qu'il espère pour son fils, qu'il n'a plus vu depuis des années, parce qu'ils se sont disputés, parce qu'il y a eu différends, il y a eu disputes, il y a eu carnage dans la famille. Ne perds pas espoir, mon frère, ma soeur. Crois que Jésus peut ramener ton enfant. Crois que Jésus peut toucher ton enfant. Dernièrement, une soeur me disait, ça fait des années que je n'ai pas de nouvelles de mon enfant, il ne m'a jamais appelé. On a prié, et son fils l'a appelé, et il a dit, je veux passer du temps avec toi, je veux venir avec mes enfants. Ici, dans cette salle, il y a une autre personne dans le même cas, qui n'avait pas des nouvelles de ses enfants, qui ne connaissait pas ses petits-enfants, et qui l'année passée... Hein? C'est ça, Dominique? Je ne mens pas. Pourtant, il y avait une tristesse sur son cœur, hein? Un désespoir. 12 ans, vous imaginez? 12 ans sans nouvelles, sans connaître les enfants, les petits-enfants. Et on a prié, le Seigneur a exaucé. Et il y a un moment vers Noël, c'est ça, où vous avez pu passer du temps en famille. Ça fait deux personnes, rien que dans l'assemblée. J'imagine même pas sur la terre, tous ceux qui perdaient espoir quant à leur famille. Peut-être quelqu'un dit, mon fils, depuis qu'il est adolescent, il ne vient plus à l'église. Il veut plus. Et il me dit, maman, je veux pas de ton Dieu, etc. Gardez espoir parce que je l'ai fait. Et regardez où je suis, dans la maison du Seigneur. Parmi vous, parmi mes frères et mes sœurs. Peut-être quelqu'un n'a plus d'espoir quant à le fait de trouver un conjoint et une conjointe. Gardez espoir. Le Seigneur, il sait ce qu'il vous faut. Le Seigneur veut être près de vous. Vous vous sentez seul, il veut être là. Il veut combler ce vide par l'action de son Saint-Esprit dans vos cœurs. Et s'il y a quelqu'un qui est bon pour vous, eh bien alors il vous le présentera, etc. Parce que peut-être aussi que Dieu veut d'abord guérir un cœur pour qu'un mariage soit solide et qu'il puisse vivre heureux. Parce que comme on le dit, un mariage ne rend pas heureux. Un mariage, c'est rendre heureux l'autre. Parce qu'on est déjà soi-même heureux. Et le Seigneur va le faire. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un peut-être perd espoir à cause de la maladie. Peut-être quelqu'un perd espoir à cause du besoin d'un travail. Quelqu'un perd espoir pour ses papiers, quelqu'un perd espoir pour toutes sortes de situations, pour son diplôme, etc., pour les études, échec sur échec, 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 échec scolaire. Le Seigneur vous dit, garde espoir, mais mets ton espoir en l'Éternel. T'as ton espoir dans tes forces, arrête. T'as ton espoir dans ton argent, arrête. T'as ton espoir dans ta voiture, arrête. T'as ton espoir dans ton corps, t'es belle, t'es beau, c'est pas ça, arrête. T'as ton espoir dans ta santé, arrête. Mets ton espoir en Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, pour qu'on ait accès à toutes les promesses de Dieu, a donné sa vie pour nous sur le bois de la croix. On ne mérite pas. Ce n'est pas par nos forces. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas par nos médailles ou l'argent qu'on pourrait mettre. C'est par le sang précieux de Jésus qu'on a accès auprès du Père et qu'il peut enfin nous bénir parce qu'on est lavé de nos péchés. Nous qui avons rencontré Jésus-Christ, ayons confiance en lui. Ayons cet espoir actif. Cette attitude devant Dieu de dire, même si je vois rien, même si j'ai rien pour m'appuyer d'autre que la parole de Dieu, eh bien je la prends et je m'appuie sur elle. Je bâtis ma maison sur elle. Et Jésus va dire, celui qui bâtit sa maison en mettant ma pratique est comme quelqu'un qui met, celui qui met en pratique mes paroles, il est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur un rocher inébranlable. Et sa maison est solide. Et la tempête, elle vient aussi. On a tous peur à la tempête, mais la maison, elle tient bon. Parce qu'elle a de solides fondements. Pas les choses humaines, pas les choses futiles, pas les choses éphémères, mais ce qui demeure éternellement, la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Mon Dieu, mon roi, c'est vrai que peut-être quelqu'un est désespéré cet après-midi. Et heureusement que tu es venu à nous pour nous redonner espoir. Quelqu'un peut-être savait cet après-midi qu'il était privé de ta grâce, privé de ton approbation, privé de ta miséricorde parce qu'il n'avait jamais fait la paix avec toi. Parce qu'il est coupable, parce qu'il reconnaît son péché. Lui aussi, tu peux le sauver. Lui aussi, tu peux le convaincre que tu l'aimes et qu'aujourd'hui, il peut trouver grâce à tes yeux. Merci, Seigneur, de nous aider à chacun à grandir avec toi, à grandir dans notre espérance, dans notre foi envers toi et ta parole. Nous voulons avoir confiance, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement attendre parce qu'on voit des choses. On veut attendre parce qu'on sait que tu n'es pas menteur et que tout ce que tu dis, c'est la vérité. Si tu donnes un manteau aux pauvres, si tu prends soin de l'étranger, si tu prends soin de la veuve, de l'orphelin, si tu prends soin de tes brebis, de tes enfants, si tu te fais appeler le père, si tu te fais appeler le bon berger, si tu dis que tu pourvoiras à tous nos besoins, c'est pour qu'on mette toute notre confiance en toi et qu'on marche avec espérance dans cette vie. Et tu dis même qu'à notre espérance est attachée quelque chose de merveilleux, une promesse extraordinaire. Parce que nous avons foi en toi, nous avons le ciel comme espérance, nous avons le ciel comme promesse, nous avons un héritage et une gloire infiniment plus grande que ce qu'on pourrait tout imaginer. Merci Père de nous faire une place dans le ciel. Merci Jésus de préparer cette place. Merci Jésus parce que tu reviens nous chercher. Et peu importe les circonstances, nous savons que tu veilles sur nous et que tu nous donneras tout ce qu'il faut pour que la vie sur cette terre soit menée à bien. Seigneur, nous voulons réussir notre vie et nous savons que le seul moyen d'être épanoui sur terre et de réussir sa vie, c'est de mettre son espoir en toi et en ta parole. Que ton nom soit béni, Père. Amen.